Merci à tous d'être parmi nous pour le 1588 qui s'intitule, mesdames et messieurs, comprenez-vous bien, le jeu vidéo hier, aujourd'hui et demain. Complètement dingue, on dirait un sujet de philo. Et pourtant, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est des questions jeux vidéo que vous allez pouvoir me poser directement et auxquelles on va être très heureux de pouvoir répondre. Mais bien évidemment, pour cela, je ne serai pas seul. Et non, on a d'autres personnes de Gameblog qui vont se joindre à nous. Et je vous demande d'ailleurs de les applaudir très chaleureusement. Il s'agit de Julo et Tiger Suplex. Alors, c'est un peu la trinité des Juliens de Gameblog. Julien, enchanté.
Non, moi, je suis Julien.
Parmi vous, d'ailleurs, quelles sont les personnes qui c'est connaissent Gameblog et qui ne connaissent pas Gameblog? Ceux qui connaissent Gameblog.
Un peu.
Très bien. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas Gameblog. Eh bien, bienvenue à toi. Tu vas découvrir, c'est un monde incroyable. Mais, messieurs, Tiger, ça va bien?
Impeccable.
Julo.
Super, c'est déjà une expérience géniale.
Et puis, si on est en train de parler, je vous rappelle que la fin du monde n'est donc pas arrivée, car elle était calée au 21 mai. Nous enregistrons le 21 mai, nous sommes toujours vivants, mais c'est diffusé a priori le 8 juin, c'est peut-être une dernière trace de l'humanité qui partira comme ça sur les ondes. Mais nous ne sommes pas seuls, non. On vous l'avait dit tout à l'heure, nous avons deux spécialistes, deux stars de l'histoire du jeu vidéo, et je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Alexis Blanchet, auteur de l'ouvrage de Pixel à Hollywood.
Bonjour.
Ça va Alexis?
Ça va très bien.
On se quitte plus.
Ben non, j'ai l'impression qu'il y a une grande histoire entre nous là.
Je tairai les propos de ton dernier message sur Twitter. Donc Alexis, auteur des Pixel à Hollywood, tu es enseignant-chercheur de cinéma. Et c'est pour ça que justement tu as écrit, rédigé ce livre qui retrace vraiment les liens entre cinéma et jeux vidéo.
Voilà, une grande histoire un petit peu de ce qui se passe entre ces deux domaines au moment où un nouveau domaine de l'image, du divertissement apparaît dans les années 70 et un moment où Hollywood a des grosses difficultés par rapport à la grande histoire qu'elle a connue depuis la fin des années 10 et c'est ce que racontent des Pixel Hollywood.
Eh bien très bien, Pixel Hollywood qui sont édités aux éditions Pixel 9. On va accueillir notre dernier intervenant. Il s'agit aussi d'historien du jeu vidéo. Lui, c'est l'histoire de Nintendo qui l'intéresse ces derniers temps. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Florent Gorge. Ça va, Florent? Magnifique t-shirt.
Merci, oui, très bien. Merci à tous d'être venus, c'est gentil, ça fait beaucoup de monde, c'est fait plaisir.
Ouais. Alors, je vois que tu as une 3DS, j'en ai une aussi dans les mains. On s'est dit qu'on allait strip passer à fond les pastèques. Qui a sa 3DS là parmi nous? 1, 2, 3, une bonne dizaine. Ah bah tiens, on va strip passer un petit peu.
Quel monde de bouche.
3DS dédicacée par Shigeru Miyamoto.
Ah,
Désolé. Non mais comme ça je peux vous filer Shigeru, mais bon. Shigeru Miyamoto, bien sûr, le père des Mario, des Zelda, pour ceux qui auraient quitté la planète depuis 20 ans.
Et bien sûr, cette console est à gagner aujourd'hui.
Bien sûr. Crois-le. Allez, on va pouvoir du coup commencer ce podcast à proprement parler. Mais comme on vous l'a dit, ce podcast, c'est vous aussi qui allez le faire avec nous, bien évidemment, en nous posant toutes vos questions. Et n'ayez pas peur, il n'y a aucune mauvaise question, bien évidemment. Pour cela, je vais vous demander d'applaudir un intervenant un petit peu particulier, fait partie de la communauté Gameblog, il s'agit de Chumilut. Chumilut, officiellement, je te remets ce micro. Tu vas avoir l'insigne honneur comme ça de pouvoir sillonner les travées de la FNAC DEAL dans cet espace rencontre à la recherche des meilleures questions. Et puis tu vas avoir un deuxième défi. Et là, je vais laisser la parole à Florent, puisque je vous le disais tout à l'heure, il va avoir un concours exclusif
avec quelque chose d'assez particulier, Florent.
Exactement, oui. Aujourd'hui, on vous a réservé une petite surprise pour tous, pour vous tous ici présents. Le concours va porter sur ce petit gadget que vous avez là, qui s'appelle le Shooting Watch. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une machine, en fait, qui permet de calculer le nombre de pressions à la seconde sur la manette. Donc voilà, à vous de juger, de jauger votre dextérité. En 10 secondes, faire le plus grand score possible. Alors attention, la règle, elle est très simple. C'est un seul test par personne, sans échauffement. Voilà, c'est un sprint, pas
froid.
De chance, à froid. Celui qui fera le meilleur score en 10 secondes, le record là sur cette machine est de 161 pressions.
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal. Notre maître à tous, Takarashi Meiji, lui faisait 168. Donc celui qui parviendra à faire le meilleur score gagnera un lot un petit peu particulier puisque c'est un jeu NES. C'est un jeu qui s'appelle Mr. Splash. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un jeu PS3 ni Xbox 360, mais NES. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il a été développé il y a quelques années. Combien tu as fait, Julien ?
182, mais avec 100 en moins.
Ouais, je ne vois pas le premier.
82.
Bon, record à battre. Il est déjà noté, tu vois, l'arbitre de Chobilot, il a déjà tout noté.
Au top.
Et donc, Mr. Splash a été développé en 2007 dans le cadre d'une émission de télé-réalité au Japon. Le but de cette émission, c'était de demander à différentes personnes de réaliser un jeu en 2 mois, dans les conditions de l'époque, en assembleur, et de réaliser voilà, ce jeu. Et c'est le résultat de cette émission, c'est Mr. Splash.
Comme quoi, dans la télé-réalité, il y a toujours une histoire d'eau, de piscine ou de splash.
Oui, exactement, c'est une histoire d'eau, là encore. Et on a la chance...
Les 10 ans de la télé-réalité.
On a la chance d'avoir pu récupérer, de croiser aussi les développeurs. On leur a demandé s'ils étaient OK pour qu'on fasse une version NES. Une version française, ils ont dit oui. Le jeu a été traduit et édité à seulement 50 exemplaires.
Numéroté.
Numéroté, exactement. Donc voilà, ce qu'on vous propose de gagner aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Vous avez une chance sur quoi ? Vous êtes une centaine peut-être aujourd'hui ? Voilà, une chance sur 100 peut-être de le gagner.
Donc n'hésitez pas à chaque fois, vous levez la main ou si vous appelez de show pendant les questions. Tac, il note votre pseudo. Et comme ça, on est parti. Je crois qu'on peut applaudir Florent pour ce beau cadeau.
Et bon courage à vous tous.
On va vous donner une heure ici à la finale de RL pour faire chauffer vos doigts. Alors, on va commencer l'émission, messieurs. Pour ceux qui sont là, vous allez avoir la chance donc, de pouvoir poser vos questions. Mais il y en a certains, malheureusement, qui ne sont pas parisiens. Et donc, qui nous ont posé leurs questions sur gameblog.fr. Et du coup, je vais vous les poser, messieurs, car elles s'adressent directement à vous, Alexis et Florent. On va commencer avec une question qui s'adresse plutôt à Alexis avec Anne Falmire, qui demande « L'avenir des jeux vidéo ne va-t-il pas passer par un changement de nom du média ?» Parallèlement au terme « cinéma » qui ne s'appelle plus « zoopraxiscope » ou « chronophographe », n'est-il pas finalement temps pour ce média d'avoir une dénomination polysémique ?
Eh oui !
On vous avait dit... Des termes, de la philo, tout ça, c'est maintenant.
C'est tout à l'honneur de la communauté de Gameblog d'avoir des internautes qui ont des bonnes connaissances du cinéma. Je crois qu'il est un peu tard, en fait. Il est un peu tard dans les usages vidéo game, jeux vidéo. Ça y est, c'est déjà ancré dans les usages. Regardez dans cette FNAC ou dans n'importe quel lieu de vente, dans le rayon jeux vidéo, vous aurez jeux vidéo. Il y a eu des tentatives. En France, par exemple, ils ont eu peur... dans les années 90, que le vocable vidéogame s'installe dans les usages qu'on parle entre nous de vidéogame, comme c'est le cas en Italie. Les Italiens ont tendance à parler de vidéogame plutôt que de videogioco.
Et c'est dans la langue anglaise, voilà. Même en France, même en Espagne, même en Italie.
Il faut dire que les Italiens disent computer.
Voilà, donc il y avait ce risque, puisqu'en France, on a cette exception de culturelle, on souhaite préserver la langue. Donc il y a une commission technique. Pas tout bon. Dans cette commission technique, qui propose des termes régulièrement, par exemple, qui a imposé courriel pour éviter de parler d'email.
Qui a imposé.
Enfin,
qui a proposé.
Qui a proposé. Et ils ont eu cette idée. C'est un terme qui était apparu au début des années 80, et puis vraisemblablement qui est passé un petit peu dans les années 90, qui était ludiciel. C'est-à-dire, on va parler des ludiciels. Le problème, c'est que le terme ludiciel, on ne savait pas trop si c'était un logiciel de jeu, un logiciel ludique, un jeu vidéo, ou si c'était un logiciel qui permettait de fabriquer des jeux, comme un Progiciel est un logiciel qui permet de fabriquer des applications professionnelles, etc. Et puis voilà, les usages, c'est le social, c'est nous tous, communauté de joueurs, qui d'une certaine façon avons choisi aussi d'utiliser ce mot jeu vidéo pour parler du jeu vidéo.
Alors Julio, je vais te donner la parole, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que le mot jeu vidéo finalement réserve et cantonne notre loisir, notre passion, à quelque chose donc d'enfantin, puisqu'il comprend le mot jeu, Julio?
Non, alors en réalité, ça me fait penser, on avait reçu dans un précédent podcast David Cash, qui a fait donc Heavy Rain, il y a pas très longtemps, qui est reconnu donc, pour être un jeu qui explorait un peu de nouveaux territoires ludiques, vidéoludiques. Et en l'occurrence, il nous disait qu'effectivement, il était temps d'essayer de pas de changer de terme, mais tout du moins d'arriver à faire la différence dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le magma des jeux vidéo, de garder peut-être le terme jeu vidéo pour des jeux qui vont être... très basé sur le gameplay, sur tu vois, les Mario, les choses comme ça, et peut-être essayer de trouver une nouvelle formule pour se débrider un petit peu et aller vers de nouveaux territoires et voilà, séparer un peu les deux quoi, plutôt que remplacer complètement l'expression jeu vidéo.
Loisir numérique, c'est pas si mal.
Oui, mais pourquoi pas jeu vidéo, pourquoi pas, ce mec c'est du jeu finalement, enfin c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous plaît dans le jeu vidéo, c'est de jouer. L'homme est la seule espèce animale qui continue de jouer après en ayant atteint l'âge adulte. C'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui fait notre humanité aussi, c'est qu'on a ce plaisir de jouer et que c'est pas seulement l'apprentissage de la vie, du combat, de la domination, etc. Donc voilà, on est une génération aujourd'hui de trentenaires qui avons joué quand on était jeunes, qui continuons à jouer, parfois travaillons à l'université sur les jeux vidéo ou professionnellement. Finalement, le jeu a quelque chose de beau à défendre et c'est finalement pas si mal que ce soit jeu vidéo qui soit le terme qui caractérise ce domaine. Ensuite, pour rebondir sur ce que dit Julio, c'est vrai que finalement, on observe aussi que dans les termes qui sont utilisés, on voit apparaître des termes comme jeu indépendant, le jeu vidéo indépendant, pour rajouter cet adjectif-là, pour peut-être préciser une autre forme d'approche, une autre économie, d'autres types de jeux. Le jeu d'auteur, tout doucement, alors on le voit arriver par ici, par là, mais il dit aussi quelque chose, et jeu d'auteur, bien évidemment, moi en tant que
chercheur
en cinéma,
artistique.
Voilà, on le renvoie au cinéma d'auteur, qui est une catégorie qui apparaît dans les années 50 et 60 en France. Donc ça évolue, mais autour de cette dimension du jeu.
Tu voulais réagir, Florent?
Oui, c'est vrai, moi je suis d'accord avec Alexis, c'est un peu tard aujourd'hui pour revoir l'étymologie, enfin toutes ces pratiques... en termes de mots, on se rend compte en regardant l'histoire du jeu vidéo que le terme jeu vidéo, videogame, a créé un sacré nombre de problèmes, notamment par exemple sur la paternité, qui a inventé le premier jeu vidéo. Est-ce que les Game & Watch sont des jeux vidéo? Par définition, un jeu vidéo doit jouer sur un écran vidéo. Or, les jeux sur ordinateur, les jeux sur oscilloscope n'utilisent aucun canal vidéo. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu aussi pas mal de malentendus quant à la paternité. Un jeu d'arcade, est-ce que c'est un jeu vidéo? Là, on rentre dans la technique.
C'est un écran vidéo.
Pas toujours. Oui, c'est des fois des écrans qui sont spécialement dédiés pour ces jeux. Mm-hmm. Donc, ça a créé un certain nombre de problèmes juridiques aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu tard, mais au cours de l'histoire aussi, on a vu évoluer pas mal l'utilisation des mots. Moi, je sais que ma mère, même si je jouais avec une Game Gear, elle me disait « range ta Game Boy ». Voilà. Au Japon, tout le monde disait « range ta
Game Boy ».
Ouais. Au Japon, ils disaient tout, range ta Famicom ou arrête de jouer à la Famicom, même si les enfants jouaient déjà à la PlayStation. Voilà, donc ça évolue, bien sûr, après les termes changent, maintenant c'est certainement range ta DS ou un truc comme ça, mais ça évolue, le terme jeu vidéo est celui qui est communément retenu, et je pense que c'est pas plus mal, même si juridiquement parlant, et même pour les recherches, pour les chercheurs, des fois il serait bien de faire la distinction de façon beaucoup plus claire, même si pour le grand public, jeu vidéo c'est largement suffisant.
On a la chance d'avoir Alexis Blanchet avec nous, enseignant-chercheur du cinéma. Qui parmi vous a vu le film Sucker Punch?
Une grande majorité. Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que de plus en plus de films, et à l'image du film Sucker Punch, on a l'impression que ça reprend des éléments forts du cinéma. Il me semble que Seb Le Caribou est parmi nous. Voilà, donc je pense que Cho, tu vas pouvoir lui passer le micro, parce que tu avais justement une question concernant Sucker Punch à adresser.
Tu peux te lever, histoire que tout le monde puisse...
Et si tu peux... Voilà, le micro.
Oui, donc.
Viens dans le micro.
Je voulais savoir si tu avais vu Sucker Punch et. Est-ce que tu avais eu le même genre d'analyse que j'avais fait, par exemple, de dire que c'était vraiment un jeu vidéo, mais sans gameplay, donc presque frustrant en fait. Parce qu'il perdait une dimension cinéma. Et il perdait du coup aussi l'attractivité du jeu vidéo, donc l'interactivité.
Oui, alors malheureusement, contrairement à vous, j'ai pas encore vu Sucker Punch. J'ai J'ai plutôt travaillé sur les péplums ces derniers temps, donc j'ai revu des films des années 60 et j'ai joué à God of War.
Et Gladiator.
Et Gladiator, et etc.
Je préfère les Gladiators à des Beatles.
Voilà. Ça vous parle. Mais par contre, non, pour avoir vu des éléments de Sucker Punch, alors c'est difficile de dire c'est un jeu vidéo auquel il manquerait l'interactivité. Le jeu vidéo, c'est un dispositif. Le film de cinéma diffusé en salle de cinéma, c'est un autre dispositif, social, public, où on paye pour sa place, où il y a un rituel particulier qui est celui du noir dans la salle, qui est celui du silence, en France et en Occident en général, hein, parce qu'on voit le cinéma différemment dans d'autres pays du monde. Si vous allez en Inde, par exemple, vous serez surpris de voir les gens se lever, parler entre eux. Donc il y a cette question du dispositif, et d'une certaine manière, le jeu vidéo, c'est aussi son dispositif, c'est-à-dire son interface sur laquelle le joueur agit, le dialogue qui se joue entre le joueur et la machine, que ce soit un circuit électronique ou un microprocesseur, etc. Et finalement, ces images qui vont arriver sur l'écran, qui vont être la traduction de ce qui se passe entre le joueur, son interface et l'intelligence artificielle qui fait l'intermédiaire. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Il y a une génération de réalisateurs aujourd'hui qui sont des gens qui ont joué aux jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont fait une culture de l'image avec la télévision, avec le cinéma et avec le jeu vidéo.
Là, en l'occurrence, c'est Zack Snyder, qui a fait 300, Watchmen, qui ne se cache pas de son amitié et même de son amour de joueur. On pense aussi à Peter Jackson, qui a travaillé aussi avec Ubisoft sur de nombreux jeux. Steven Spielberg, qui dit son intérêt quand même, fait des jeux.
Oui, les frères Wachowski, par exemple. Enfin, on a toute une... Et puis en France, on en a aussi quelques-uns, hein, Christophe Gans, par exemple, hein, qui est un joueur. Donc, bien évidemment, il va se passer, et il se passe quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que il y a dans des choix de cadrage, par exemple, la caméra façon à la troisième personne, c'est une figure qu'on commence à repérer régulièrement dans des films. Et donc, d'une certaine façon, voilà ce qui va se passer. Alors, il faudrait que je voie le film de Snyder pour vraiment te dire ça plus précisément, mais vraiment, ce qui va se passer, c'est que ça va infuser, c'est qu'il va y avoir des codes, et puis que, en tant que spectateur de cinéma et joueur que vous êtes, et que nous sommes tous, on va les voir, c'est-à-dire ces réalisateurs, ils vont essayer de nous parler par rapport à ça. Ils vont aller chercher dans notre culture de l'image, et ils vont essayer de construire du sens sur un écran de cinéma par rapport à des références, par rapport à des rapports à l'image qui ont pu se construire dans le jeu vidéo.
Je ne sais pas parmi nous, là, ceux qui ont vu Sucker Punch, moi personnellement, je serais assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai trouvé le film éblouissant techniquement. Bon, après, on n'aime pas l'imagerie, mais enfin, c'est très bien effectué. Il y a des scènes que c'est copié-collé. Par exemple, la Final Fantasy XIII, la séquence avec le train, au plan près. Et du coup, effectivement, la force qu'a le jeu vidéo de pouvoir immerger le joueur par l'interactivité, le revoir transposé avec des moyens qui sont encore supérieurs en termes d'image et de son aujourd'hui au cinéma, finalement, crée quelque chose d'un petit peu frustrant, parce qu'on a l'impression déjà, pour notre génération, de l'avoir déjà vu. Et on se dit donc que pour nous, on l'a déjà vu, déjà joué, et donc ça perd un petit peu en force, hormis le fait de dire « Ah, ça veut dire que le jeu vidéo est de plus en plus représenté, donc ça fait un petit plaisir, mais qui finalement est effacé vite parce qu'on a pris moins de plaisir à regarder le film. » Et à contrario, se dire que pour des personnes qui ne sont pas clients du jeu vidéo, je me dis « Mais ça va être abrutissant pour eux, parce que ça va extraordinairement vite, c'est débile au sens pas péjoratif du terme, mais c'est quand même une nana qui saute dans tous les sens avec des mecs déguisés en samouraï qui lui tirent avec une gatling qui fait 20 mètres. » Donc bon, si t'es pas adepte de ce genre de film ou d'image, tu peux pas adhérer. Donc c'est vrai que moi je trouve que les deux médias sont très différents. Et peut-être qu'à trop vouloir les faire se rapprocher, ils perdent, pour le jeu vidéo quand ils veulent trop copier le cinéma, ou pour le cinéma quand ils veulent trop copier le jeu vidéo, l'essence même de leur média.
Oui, mais si tu veux, d'une certaine façon, c'est la coexistence des deux médias qui nous fait faire ce rapprochement. Je pourrais te sortir un film de 1947 qui s'appelle La Dame du Lac, qui est complètement réalisé en prise de vue subjective. Mmh. Le spectateur est mis à la place du personnage principal. Finalement, d'une certaine façon, on pourrait faire la même analyse en disant, tiens, mince, on est en vue subjective, en first person, et pourtant, on n'a pas cette frustration parce qu'on est en 47, le jeu vidéo n'existe pas, il n'est même pas question de penser ce rapprochement-là. Donc voilà, mais moi ce qui m'intéresse, j'ai retravaillé un petit peu sur le film des Wachowski, qui est Speed Racer, qui est vraiment, à mon avis, beaucoup plus que Matrix, un jeu qui va lorgner du côté du. Enfin, un film, pour le coup, qui va lorgner du côté du jeu vidéo. Je trouve vachement intéressant ce que font les Wachowski sur les ghosts qu'on utilise dans nos. Dans les Mario Kart, dans les Ridge Racer, etc., où tu as toute une tension dans la narration du film entre le fantôme du frère disparu dans des conditions troubles et puis le jeune Speed Racer. Et ça se joue en termes de mise en scène par rapport à Speed qui essaye de rattraper le fantôme de son frère, qui est une voiture qui roule devant lui et puis qui va laisser gagner, il ne veut pas battre le record de son frère en témoignage de son amour pour son frère, etc. Et finalement, je pense que c'est sur ce genre de choses et parfois. Voilà, ça vient pointer dans un film, mais il y a bien quelque chose qui est des joueurs-réalisateurs parlent aux joueurs-spectateurs.
Tu parlais de record. Chomilout, au micro, quel est à peu près le fil rouge là, du jeu avec, comment ça s'appelle déjà ?
Le Shooting Watch.
Le Shooting Watch. Qui a le meilleur score pour l'instant ?
Pour l'instant, c'est Luciol avec 86.
Oh, mais j'étais pas si mal avec mon 84, finalement. 86, ok, il faut le battre, il vous reste encore largement du temps.
N'hésitez pas à lever la main.
Et justement, on va aussi prendre une nouvelle question parmi vous. Je crois qu'il y en a une là-bas. En attendant, voilà, Chomilout va s'y rendre.
Le pauvre, il a du mal à suivre.
Mais c'est qu'il y a du monde. Non, c'est qu'il y a du monde. Alors attention, n'hésite pas. Alors que la caméra tombe
seule avant.
Voilà. Comment tu t'appelles ?
C'est 22. Bonjour.
Bonjour.
En fait, ma question s'adresse à ceux que ça concerne, comme certains communiqués de presse de Nintendo.
Ouais.
Puisque, si j'ai bien compris, on a diffusé la semaine de l'E3.
Tout à fait. On est en pleine E3, là, tel que vous entendez.
Quels sont depuis quand avez-vous... Depuis quand êtes-vous allé au premier
E3
ou au premier CES? Et quels sont vos premiers souvenirs?
Premier E3, c'était en 99, pour ma part. Et depuis, je crois que j'en ai manqué qu'un seul, celui de 2003, je crois.
Non, 2003, tiens.
Alors c'est 2004, oui, c'est 2004, celui que j'ai manqué. Oui, c'est 2003, c'était notre dernier E3 flamboyant, avec les magazines Joypad et PlayStation Magazine à l'époque, avec Juno, Raon...
C'était mon premier, moi, d'ailleurs. Ouais. Et mon premier, le dernier que j'en ai fait qu'un seul, bizarrement.
Donc t'avais un très bon souvenir.
Et souvenir extraordinaire, vraiment, c'est... une ambiance incroyable ce salon parce que c'est gigantesque, il y a du bruit partout et puis on est évidemment très excité de découvrir tout un tas de trucs parce qu'il y a toujours les plus grosses surprises, ça se déroule toujours là-bas à Los Angeles. C'est vrai qu'en 2003 il n'y a pas eu de nouvelle console, etc. C'était Metal Gear Solid 3 pour moi, mon souvenir, c'était ça, non ?
3, ouais.
Avec ce stand Konami, toutes les demi-heures je crois, il y avait le trailer qui passait, il y avait juste ça. On pouvait pas jouer au jeu, mais tu sentais une effervescence incroyable. Il y avait tout le salon qui se retrouvait devant le stand Konami, mais... et tout le monde qui était assis.
Alors justement, moi j'ai connu quelques années avant Metal Gear Solid 2, et tu parlais de grands souvenirs, et effectivement, l'E3, donc c'est en gros c'est le festival de Cannes du jeu vidéo, c'est pendant 4 jours, enfin le salon dure 3 jours, mais il y a les conférences en amont, où les principaux constructeurs et éditeurs parlaient. Finalement, le temps fort, c'est pas le salon lui-même, mais c'est vraiment avant, parce qu'on voit... les politiques et la vision des constructeurs. Ceux qui vont être un peu humbles, ceux qui veulent vraiment fracasser l'autre et faire la guerre des chiffres. Et donc c'est assez symptomatique. Puis l'annonce des gros jeux, certains qui sortiront 2, 3, 4 ans, voire jamais, au final. Donc ça c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, cette année, je me rappelle très bien, c'était un jour avant le début de l'E3, on avait été invité par Konami en tout petit comité, on devait être allez, une petite centaine, et on avait été invité à Universal Studios, dans une petite salle de cinéma. Hideo Kojima, à l'époque, n'était pas encore aussi médiatique qu'il l'était. Il était beaucoup plus hésitant, même physiquement. Donc il avait appris son texte par cœur en anglais. Il s'était planté, il n'arrivait pas à recommencer. Il y avait Scott Dolph, à l'époque, qui était son interprète, qui était là pour essayer de rattraper les choses. On ne savait pas trop ce qu'on allait voir, à part que c'était le nouveau Metal Gear. Et on s'est pris, rappelez-vous, à l'époque, une baffe monumentale,
c'était juste incroyable.
10 minutes de bande-annonce, c'était jamais vu dans le jeu vidéo, on avait l'impression de voir un film, je me rappelle, j'étais avec Raon, et on se regardait, on avait des fous rires nerveux. C'est-à-dire qu'on disait, c'est fou, non mais attends, ça s'arrête jamais, c'est dingue, et tout, mais voilà. La PS2 à l'époque, pour le resituer, vraiment avait un peu de mal, techniquement, l'Emotion Engine, c'était la Deception Engine un peu. Donc vraiment, on s'est pris une claque, et effectivement après, sur le salon, toutes les heures, le trailer était balancé, et le salon, et c'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai vu ça, s'arrêtait de vivre, et tout le monde arrivait, se ruait devant, assis par terre. C'était horrible. Quand vous étiez l'éditeur à côté, je crois que c'était Electronic Arts et Capcom, mais on s'en foutait.
Les gens étaient, se vidaient.
Et non, mais même ça rentrait sur leur propre stand, mais pas du tout pour regarder leur jeu, mais juste pour voir, revoir et re-revoir. C'était un instant vraiment magique.
Effectivement, c'est le moment où Kojima est devenu le Kojima qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il était vachement plus réservé avant ça.
Mais il y avait déjà beaucoup de malice.
Et dans ses trailers.
Exactement, tout à fait. E3 pour vous, messieurs, cette année, je crois que tu t'y rends aussi, Florent.
Oui, exactement. Moi, je m'y rends pour la presse japonaise, mais c'est mon premier E3. Je suis en train de vivre mon premier E3, donc je suis tout excité, ça se voit.
Qu'est-ce que t'attends le plus?
Comme tout le monde, projet
café.
Ouais, exactement. Donc moi, mes souvenirs de l'E3, à part de regarder les conférences sur internet, comme beaucoup de gens, j'en ai pas beaucoup. Après, moi, c'est le TGS, j'ai la chance d'aller au TGS depuis plusieurs années, tous les ans.
Le Tokyo Game Show, l'équivalent en
Ah non, je parlais du Toulouse Game Show.
Bien sûr.
Tokyo Game Show.
Qui est l'équivalent de l'E3 au Japon, mais en quand même infiniment plus petit.
Ouais, et puis c'est vrai que j'y vais pas en tant que fanboy, parce que je le suis pas, mais en tant qu'amateur de Nintendo et de son histoire, je suis toujours un petit peu déçu par le TGS, puisque Nintendo le goûte depuis plusieurs années. Donc pour moi, le meilleur souvenir, ça va paraître très bizarre, mais mon meilleur souvenir de l'E3, du TGS, c'est en baladant dans le salon, qu'on m'ait reconnu 4 ou 5 fois, qu'on m'ait demandé des autographes, c'était des Français. C'était des Français, donc voilà, c'était assez étonnant en fait, de se retrouver à Tokyo, alors qu'à Paris, personne ne me reconnaît.
Voilà. Est-ce que, Tiger, tu n'as pas encore eu cette chance?
Je les ai tous loupés.
Quel est ton meilleur souvenir de 3 ratés, manqués?
Non, mais moi j'ai de très bons souvenirs de rédaction, en fait. Parce que mon premier E3 suivi a été fait depuis la rédaction de Gameblog. Et j'imagine que c'est pas aussi intense que vous qui êtes sur le terrain là-bas.
C'est une autre intensité.
Mais malgré tout, voilà, il y a cette espèce d'excitation et ce stress en même temps. On a du mal à dénuer les deux sentiments, mais c'est pas mal du tout. Très excitant.
En tout cas, l'E3 qu'on est en train de vivre actuellement à Los Angeles.
C'est incroyable.
C'est un E3 génial. On est d'accord. C'est l'un des plus grands E3 de tous les temps. Project Café, désormais, s'appelle la Wi-Fi. Enfin, tout le monde est content. Tout marche comme prévu. C'est génial. Chobilout, après avoir noté ce score, est-ce que quelqu'un d'autre. Oui, il y a des questions par ici. Ah, je ne t'entends plus.
Pour l'instant, on est à l'égalité.
À combien? Oh, pas mal. Est-ce que, je crois qu'il y a ici, on a des personnes qui ont des questions? Pas de course, c'est formidable.
Alors, moi c'est Kalinos.
Et
donc oui, j'en parlais hier rapidement avec, c'était Coco et Parodu, justement, de Gameblog. Et nous nous disions que Nintendo a la café et que Sony, finalement, bon, il y aura la MGP, ça devrait pas trop mal se passer. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une conférence très... encore comme l'an dernier, kinecto-centré pour Microsoft, ou... Parce que finalement, en fait, la Xbox, j'ai beaucoup l'aimé, j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas grand-chose, à part Kinect, qui est censé relancer la console, mais niveau jeu, on les attend encore un petit peu.
C'est horrible ce que tu nous fais, parce qu'en fait, tu nous demandes d'avoir
oui, voilà.
Un avis sur un truc qui vient de se passer hier, pour les gens qui sais complètement débile.
On s'engage à mort.
Là, c'est ça qui est beau.
Les gens peuvent nous bâcher en direct.
Franchement, je pense qu'il y aura beaucoup de Kinect. Effectivement, il y a peu d'exclusivité cette année sur la Xbox 360. Elles sont quand même majeures, attention. On a quand même Gears 3 qui vend des palettes entières
et très, très
au niveau mondial. On sait par des bruits de couloir que cette année nous fêterons les 10 ans de Halo. Il est fort probable que quelque chose soit annoncé en ce sens-là.
Il y a également Forza 4.
Forza 4.
Voilà, chez les fans de course, c'est très important.
Alan Wake.
Alan Wake, a priori sur le XBLA. Qui s'intéresserait à la zone X qu'on découvre dans le jeu. Donc,
des amateurs d'Alan Wake ici? Ouais, quand même quelques-uns.
Bravo,
Et puis, effectivement, beaucoup de choses au niveau de Kinect, des jeux à tendance plus gamer.
Voilà, c'est ça la nouveauté en fait, c'est qu'ils veulent montrer au monde vidéoludique qu'ils peuvent faire des jeux gamer sur Kinect. Ce qui n'est pas gagné à mon avis, mais...
Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, les joueurs chevronnés, et nous aussi, on ne va pas se cacher, on a un peu ri de Kinect en se disant « Attendez, qu'est-ce que c'est? Ça ne marche pas très bien, machin, etc. » C'est un vrai succès commercial, en tout cas, c'est plus de 10 millions d'exemplaires, c'est plus que ce que fait Sony de son côté avec le PlayStation Move. Donc ils ont réussi vraiment à imposer cette nouvelle manière de jouer, copiée un peu, bien sûr, sur Nintendo, mais vraiment là, avec tous ses bras, son corps en entier. Et on attend beaucoup, effectivement, le Star Wars, qui, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, qui seront peut-être démenties au moment où on est en train de parler, serait pas mal du tout. Assez intéressant, avec différents styles de gameplay. Et puis, il y a de belles choses aussi à attendre de certains éditeurs, dont des éditeurs français. Donc,
Le style Battalion.
Style Battalion, peut-être. Mais en tout cas, oui, il y aura normalement des jeux, une grande partie de jeux gamers, concernant Kinect. Mais peut-être que là, on est en train de dire de la merde, complètement. Allez, on va prendre une autre question.
Bonjour, DNS de Gameblog. Ma question s'adresse un peu à tout le monde. Je voulais connaître votre avis par rapport à la 3DS, puisque Nintendo est quand même réputé pour faire des consoles avec des technologies désuètes, comme disait Ken Gupe et Yokoi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, nous sortent une Nintendo 3DS avec un écran 3D qui est absolument innovateur. Et donc, ma question s'adresse, qu'est-ce que fait Nintendo aujourd'hui? Est-ce qu'il retente une nouvelle percée auprès des gamers avec du nouveau matériel ou...
Là, je crois que c'est une question auquel, dans un premier temps, Florent, tu vas pouvoir nous dire effectivement la pensée latérale des technologies désuètes chères à Gunpei Yokoi, est-ce qu'elle est respectée ou pas?
Bah écoute, c'est une question compliquée. En fait, il faudrait avoir le recul pour savoir si c'était vraiment... si cette technologie, bon, c'est sûr, elle est novatrice, elle n'est pas du tout désuète, puisque c'est la première fois qu'on voit ça vraiment sur un objet grand public, à part quelques appareils photo de chez Sharp au Japon, c'était assez limité.
Donc c'est le même écran.
Il est quand même amélioré, par rapport à ce qu'on a pu voir.
Mais c'est la même technologie.
Mais voilà, c'est la même technologie. Bon, il est un peu tôt, en fait, pour savoir si Nintendo respecte, oui ou non, son ADN. Et quoi qu'il en soit, on peut effectivement se poser la question. La Wii, la DS, étaient vraiment des produits qui utilisaient des technologies qui étaient déjà extrêmement répandues partout, dans les PDA. La Wiimote, hein, c'était ni plus ni moins qu'une télécommande un peu plus perfectionnée. Le Power Glove, pour ceux qui savent ce que c'est sur la NES, c'était exactement le même concept.
C'était une espèce de gant comme ça qui permettait de déplacer les choses, qui marchait à peu près pas.
Voilà, donc heureusement, il y a eu des progrès faits en 20 ans, ce qui fait qu'on a eu la Wii qui était quand même bien plus aboutie que le Power Glove, mais fondamentalement, ça reste exactement le même principe, donc ça existait déjà il y a 20 ans. Aujourd'hui, la 3DS, je pense que Nintendo s'est focalisé sur l'écran 3D pour faire sa promo, parce que c'est ce qui tape à l'œil, c'est facile à comprendre, en ce moment c'est la mode du tout 3D, mais je suis persuadé aussi que dans les prochains mois, une fois que la 3DS sera suffisamment implantée dans la population de joueurs et même de non-joueurs, ils mettront beaucoup plus l'avant sur les autres possibilités qu'offre le Street Pass, qu'offre de la réalité augmentée, parce que la véritable innovation, même si là encore ça existait déjà, il y a des jeux sur, que ce soit Dragon Quest 9 ou que ce soit Tomodachi Collection au Japon, ça existe déjà des fonctionnalités proches de ça. Mais le Street Pass est mélangé avec la réalité augmentée, la gyroscopie, et puis bien sûr l'écran 3D, tout ça mixé, pour le moment on ne parle que de la 3D, mais tout ça mixé, ça peut faire un joli pétard, et que j'espère pas mouiller. Mais en tout cas, ils mettent l'accent sur l'écran 3D qui n'est pas du tout dans le respect de la philosophie Nintendo, mais c'est peut-être pour mieux nous surprendre plus tard. Donc il est encore trop tôt pour savoir si la 3DS respecte cet ADN ou pas.
En tout cas, je vous remercie. J'ai 10 merveilleux Street Pass, c'est ce qu'il vient de me dire. Merveilleux, je suis très content, très honoré. Julo, peut-être un avis sur cette question, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Le démarrage de la 3DS, en tout cas, n'est pas au niveau des attentes de Nintendo. On sait que le marché a beaucoup changé ces dernières années, les smartphones bien sûr qui prennent aussi des parts importantes dans le marché du jeu nomade.
Moi je suis un tout petit peu plus tranché que Florent parce que effectivement moi je trouve qu'il ne respecte pas l'ADN dans le sens, et pas seulement parce que c'est une nouvelle technologie, mais aussi parce que, et ça tu le sais même personne, les consoles Nintendo et donc l'ancêtre de cette console c'est la Game Boy, et évidemment à l'époque l'argument numéro 1 Nintendo c'était la longévité de la batterie, enfin de l'utilisation des piles.
Et là elle est quand même mauvaise.
Et là elle est très mauvaise. On joue en 3D avec le Wi-Fi activé, etc. pendant
3 heures, 2 heures et demie.
Grand maximum.
Ouais, maximum, ouais.
Grand maximum. Donc ça c'est pas Nintendo je trouve du tout. Et il y a ça et il y a le prix de vente. qui découle directement justement de la nouvelle technologie de l'écran 3D, cette console est très chère. Et donc ces deux choses-là cumulées, pour moi, en plus du fait que ça ne respecte pas effectivement la pensée latérale des technologies désuètes, je ne sais pas si ça explique le non-succès, enfin plutôt le plus petit succès que celui qu'on imaginait au lancement. Et je sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller, quoi.
D'ailleurs, il faut un petit peu modérer le non-succès de la 3DS.
Oui, c'est ce que je disais.
Voilà, avec une DS qui a tout pulvérisé juste avant, il faut se rappeler aussi qu'il y a eu...
Elle a mal démarré, d'ailleurs.
Oui, avec la DS Tank, c'est la DS Lite, quand même, qui a poussé les ventes de la DS.
Et pour... Tu dis Lite, toi?
Je pense qu'il s'est juste planté.
Oui, je pense, ouais. C'est toute cette... l'assemblée, ça m'impressionne. Et pour revenir une seconde sur, tu parlais du Street Pass, ça s'est passé pour les gens.
Moi, ça, c'est très Nintendo, ça.
C'est très Nintendo et c'est une idée de génie, à mon sens. Ils n'en avaient peut-être pas conscience, d'ailleurs. On a entendu des déclarations comme quoi Miyamoto, Iwata étaient un peu surpris du succès du Street Pass, parce que l'argument, on a eu l'occasion de faire un débat sur smartphone contre console portable, là on a un argument parfait pour garder tout le temps sa console portable avec soi, comme on garderait son téléphone portable.
C'est sûr, je ne l'aurais pas pris si je ne m'étais pas dit que l'on allait pouvoir se passer, et c'est vrai que quand tu ne l'as pas en main, bah forcément tu ne joues pas, alors que ton téléphone, a priori, tu l'as toujours avec toi. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Florent.
Oui, je voulais approuver vraiment les propos de Julo. Il y a clairement dans cette 3DS des choses extrêmement intéressantes, que ce soit le Street Pass, etc., ou même le concept en tant que tel est quand même très bon, mais il y a des incohérences vraiment flagrantes. Hein. L'autonomie, elle est clairement contraire à tout ce qu'on a pu voir dans la philosophie Nintendo, et c'est assez inexplicable, en fait. Il faudrait vraiment poser la question entre quatre yeux à des responsables pour qu'ils nous expliquent pourquoi. Ils n'ont peut-être pas eu le choix. S'ils avaient pu faire mieux, ils l'auraient fait, ça c'est évident.
J'ai été surpris d'être captivé par cette histoire des Mi et de... les petits avatars, et de faire toute la famille en Mi, les copains, d'échanger, etc. Et puis de voir toute la créativité, la manière dont les joueurs s'emparaient, détournaient la question des Mi pour faire des Michael Jackson, des Pac-Man, etc. Et finalement, le Mi, on le retrouve ici, et le Street Pass, pour moi, il y a vraiment une... Enfin, ça prolonge cette idée-là, c'est-à-dire qu'on s'incarne vraiment dans ce petit personnage qui... arrive quand même avec des choses très simples à être parfois assez ressemblantes, parfois assez troublantes, et ça devient cette identité de joueur qu'on balade avec nous, quoi. Et je crois que pour le coup, entre les différentes features qui font la 3DS, bien évidemment, il y a de toute façon la 3D, elle devient visible au bout d'un moment. Enfin, moi je vois que je ne fais même plus attention à mon Ridge Racer qui soit en 3D, quoique je le ressens quand je repasse en écran 2D, mais il y a toujours ce côté Roger Caillois, je vous parle de Roger Caillois. Roger Caillois qui a beaucoup travaillé sur le jeu dans les années 50, il disait qu'une des fonctions du jeu c'était l'e-lynx, le vertige. Hein, quand ma petite fille elle tourne sur elle-même et puis qu'elle la balançoire, des choses comme ça. Il me semble que moi, dans le jeu vidéo, on retrouve cette fonction de e-lynx quand on a cet effet waouh, des graphismes, le photoréalisme, la 3D, etc. Mais bon, l'effet waouh, voilà, il a cette puissance, cet impact, mais dans le temps, il ne perdure pas. Mais voilà, d'une certaine façon, moi, avec les Mi, et ce qu'ils sont en train de faire Nintendo autour de ces petits personnages, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez intéressant.
Moi, la seule chose quand même qui me fait un petit peu peur, en attendant, et là, on est au cœur de l'E3, il y a probablement des grands jeux qui sont annoncés aussi pour la 3DS, puisqu'on le sait, hein, machine ne fait pas tout, c'est forcément les jeux qui font la différence, et comme le disait Tiger, n'oublions pas que la DS, avant de connaître ce succès incroyable, console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, a connu une première année assez molle. Néanmoins, quand on sait que plus de 40% des possesseurs de DS ont moins de 7 ans, et que la 3DS, par cette technologie de 3D autostéréoscopique, est interdite, ou en tout cas largement déconseillée, aux moins de 7 ans, c'est-à-dire que Nintendo se coupe d'un marché qui est quand même quasiment 50% de son marché sur la génération passée.
C'est 50%.
Non, c'est 42%, voilà, les chiffres. Mais quand on sait à quel point, effectivement, les parents, concernant les normes PEGI, sont finalement très peu vigilants, en revanche, quand il s'agit de la santé d'un enfant, moi, j'entends beaucoup auprès de moi des parents qui disent « Non mais no way, quoi, jamais je lui file, parce qu'il va se péter les yeux, etc. » Donc, il y a un frein comme ça aussi qui est généré par une technologie qui... fonctionne, mais qui peut peut-être faire aussi peur, et c'est toujours l'histoire du timing. Arriver un peu trop en avance, parfois, c'est pas forcément la bonne chose.
Et ce qui est marrant, c'est que ça annule aussi, même pour les adultes, l'effet waouh, justement. Parce que c'est marrant, quand je me suis pointé avec une 3DS, voir mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, voilà, pour leur, ils étaient évidemment intrigués, mais ils avaient déjà entendu parler de la 3DS, et pas qu'un peu, au journal télé, etc. Et leur première réaction, au lieu d'être waouh, ça a été déjà, même avant même de mettre leurs yeux dessus, ils savaient que ça allait leur faire un truc bizarre,
ils avaient peur,
probablement leur faire mal aux yeux, et donc ils ont eu une espèce de réaction de rejet, etc.
La famille hypochondriaque.
Pas du tout, je suis seul.
C'est un mal assez commun chez les Juliens, hein. T'inquiète pas. Ok, on va prendre une nouvelle question, alors que Joe est en train d'arpenter. Voilà.
Ah, bonjour. Bonjour à tous. Ce ne sera pas vraiment une question.
Comment tu t'appelles?
Taïfei. Ce sera pour pousser un coup de gueule. Je commence à en avoir marre d'entendre toujours dire jeux vidéo japonais, jeux vidéo occidental, alors que pour moi, le jeu vidéo se résume à deux pays, le Japon et les États-Unis, ceux en gros qui font avancer le jeu vidéo. Et le reste, pour moi, c'est du blabla. Et en même temps, une autre qui, par contre, là, c'est pas un coup de gueule, ouais. C'est les critiques qui ont été faites sur les RPG japonais comme les FF13 en disant que les RPG japonais ne se renouvellent pas, ne changent pas, l'univers ne change pas, alors que le côté américain, c'est toujours un guerrier, un elfe, le système de combat, les RPG américains, ça ne change jamais, on ne dit rien. Et je pense que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une question de. Comment dire, c'est une question. Voilà, la France est devenue un pays très américain et il y a un peu de. J'arrive pas à trouver le mot, je suis un peu.
T'inquiète. Alors pour résumer, en gros, donc pour toi, l'Europe quand même n'existe pas en termes de jeux vidéo. C'est États-Unis, Japon, c'est ça?
Non, mais.
Alors attends, tu n'as pas de micro, histoire qu'on soit vraiment sûr d'avoir bien compris la question pour
les. Oui, bien sûr, non mais.
Parce qu'en Europe, il y a quand même pas mal de développement qui sont en
Europe, c'est continent. L'Europe, après, on parle de quoi en Europe? On parle de Limbo, on parle de Heavy Rain. Pour moi, c'est pas du jeu, quoi.
Oh, quand même.
Pour moi, c'est pas du jeu. Je veux dire, on prend un jeu.
Alors, si on parle de Psygnosis, par exemple, à l'époque, les Wipeout, Tomb Raider.
D'accord.
Des grands jeux.
Grands jeux, mais ça date combien de temps? C'est comme les créateurs français, c'est comme Michel Ancel,
Eric
Chahi, lequel a fait un jeu il y a 15 ans. Oh. Non, mais voilà, je les respecte.
Michel Ancel va revenir là, très large, on est en train de parler, Rayman, etc.
Et puis, quand on prend des jeux comme Vanquish, il y a certains qui ont critiqué, mais techniquement, c'est une tuerie, le gameplay, c'est une tuerie, d'accord, l'histoire, c'est un peu, mais bon, voilà, on est Vanquish, on joue à ce jeu pour. Se faire plaisir. Et pour moi, il n'y a aucun jeu européen qui me fait vraiment vibrer. Mmh. Voilà.
Mais néanmoins, on sera quand même d'accord pour dire que les développeurs japonais, sur cette génération des consoles qu'on va appeler HD, ont eu un peu plus de mal, en tout cas initialement. Non, tu n'es pas d'accord. Bon, en tout cas, on va passer la parole à Florent.
Bonjour, moi je ne suis vraiment pas du tout d'accord en fait avec ton.
C'est un scandale !
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Chacun a ses opinions et je comprends parfaitement. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que énormément de gros blockbusters, je lis ça dans le dernier IG Mag, c'était l'interview avec. J'ai oublié le nom, enfin c'est pas grave. Et qu'il expliquait que la plupart des petites parties des gros blockbusters étaient faites en Chine, mais les développeurs n'étaient même pas cités.
La sous-traitance est de plus en plus importante.
Et de plus en plus, voilà. Et il donnait l'exemple, il disait, vous portez des t-shirts chinois, vous ne savez même pas qu'ils sont faits en Chine, il y a marqué Made in France parce qu'il y a différentes raisons qui font que ceci et que cela. Mais quoi qu'il en soit, pour le jeu vidéo, c'est de plus en plus pareil. Donc déjà, il n'y a pas de Japon-Occident, parce que si on devait parler uniquement du Japon, il faudrait peut-être parler que tout de l'Asie tout entière. Parce que les Japonais aussi font beaucoup développer en Corée. Il y a beaucoup de jeux coréens qui se développent aussi et qui sortent chez des éditeurs occidentaux. Et puis, deuxième chose, quand on parle d'Occident, on ne parle pas de territoire, on ne parle pas de frontières. Quand vous allez au Québec, regardez les équipes, il y a des Mexicains, il y a des Cubains, il y a des Brésiliens, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Suisses, il y a des Japonais. Exactement. Donc, quand on parle d'Occident, c'est surtout parce que c'est des équipes qui sont de toute façon occidentalisées, même si il y a certainement des Asiatiques ou des Africains dans les équipes aussi. Mais par contre, là où on peut être beaucoup plus critique, c'est vis-à-vis des équipes japonaises. Quand vous regardez, moi je viens de terminer Kirby, moi j'adore Kirby, j'adore Nintendo, d'accord, mais vous regardez le credit staff, à part les traducteurs, il n'y a que des Japonais. Regardez un jeu occidental, d'accord, c'est peut-être pas des jeux français, mais en tout cas, c'est des jeux occidentaux. Les équipes de développement sont occidentales. C'est ça qui est important, je pense. Et les éditeurs français ne sont pas non plus négligeables. Il y a beaucoup de petits développeurs. Ubisoft reste une marque française.
Venture Impact, par exemple, tu dis... Alors attends, si tu n'as pas de micro, il faut que tu aies un micro parce que sinon on t'entend pas et c'est beaucoup plus compliqué pour avoir la conversation.
On t'entend pas très bien et surtout les gens.
Non, mais est-ce que tu es d'accord avec ça sur le terme occidental?
Non, pas vraiment parce que. Non, mais c'est pas pour faire le.
Bien sûr.
Non, mais pas vraiment parce que quand on parle d'un jeu, on prend un jeu comme Dan Castlevania que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un jeu espagnol, c'est pas un jeu occidental parce que l'Occident c'est vaste quand même. C'est comme si que demain on.
Mais au sein de l'équipe, ça je peux t'assurer que c'est vraiment une équipe multi-ethnique, multi-confessionnelle. Tout comme les Assassin's Creed, c'est Mercury Steam en l'occurrence pour Castlevania, donc c'est une équipe basée en Espagne, mais les nationalités sont diverses. Et pour rebondir sur ce que tu disais, justement chez Kojima, il y a une vraie volonté par exemple aussi d'intégrer des talents qui viennent aussi d'Occident au sens large, parce que justement c'était sa réflexion, Hideo Kojima, donc le père des Metal Gear, qui était que vraiment les développeurs japonais, pour X et Y raisons, la barrière de la langue, qui fait qu'au niveau des moteurs graphiques, par exemple, ils ont plus de mal que les Occidentaux qui communiquent énormément entre eux et donc qui gagnent du temps. Et on a vu qu'ils ont eu beaucoup plus de difficultés, quand même, réelles, à franchir le cap de la HD, alors qu'ils étaient assez hégémoniques à l'époque des 8 bits, des 16 bits, donc de la Super Nintendo, de la PlayStation et encore de la PlayStation 2, sur l'époque PS3, Xbox 360, beaucoup plus de complexité. Et des équipes aussi qui n'ont pas su monter en volume et en gamme un Assassin's Creed. C'est plusieurs studios, ils sont 6 studios à travailler à travers le monde, avec ça monte à 400 personnes, là où un Metal Gear Solid 4, au pic de sa programmation, arrive à 80 personnes.
Mais la différence dans tout ça, c'est qu'au moins un jeu japonais, quand il finit, il y a rarement des bugs, au moins c'est fini. Quand on prend un jeu américain, j'aime beaucoup les jeux américains, mais quand on prend un Assassin's Creed qui est canadien, quand ça sort, c'est bugué, il n'y a pas de charme, il n'y a rien. Quoi.
Ça c'est une vision personnelle, mais effectivement,
c'est vrai que... Culturellement, oui. Les Japonais ont une hantise des bugs. Ouais. Et c'est vrai que dans leur tête, les jeux occidentaux, c'est les jeux buggés. Ou mal débuggés, quoi.
Si on pouvait relativiser, c'est vrai qu'on parle souvent des États-Unis comme le plus gros marché. Il faut savoir que la France, c'est pas plus gros qu'un État américain. Donc si c'est un peu comme pour les événements, il y a toujours des gens qui sont là. Aux États-Unis, ils ont de la chance, ils ont 3 événements énormes dans l'année. Nous, on en a un. Mais quand on regarde, quand on fait un petit peu un rapport par rapport à la dimension, par rapport aux gens, avoir 3 événements aux États-Unis, quand tu habites sur la côte Est et puis que tu as les 3 événements qui sont par exemple à la côte Ouest, bah c'est comme s'il y avait un événement à Moscou chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout concernés, ils ne sont pas vraiment concernés. C'est quand même loin.
Et je ne te parle pas de la température.
Ouais, non. Mais en tout cas, quand on parle tu vois, d'un jeu français, c'est sûr, on sort peut-être pas des jeux français qui font des cartons internationaux tous les ans, mais est-ce que t'as des jeux texans qui font des cartons tous les ans aussi, tu vois?
Donc, il t'a bâché, mec!
Non, pardon, excuse-moi. Non, mais voilà, c'est que t'es proportionnel, donc c'est vrai qu'on peut reprocher aux jeux français, c'est vrai, on va dire, ouais, Rayman, et ça fait 15 ans qu'on en parle.
Mais quel grand jeu, quoi!
Mais voilà, c'est des grands jeux qui ont quand même marché. Alors évidemment, si on veut Heavy Rain, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un carton. Et quoi qu'on en dise,
déjà des résonances au sein des développeurs.
Et donc le marché français est pas si ridicule que ça. Si tu prends proportionnellement, le marché français est extrêmement actif, peut-être moins que Montréal, que le Québec, à proportion gardée, mais on n'est pas ridicule. Alors évidemment, à proportion gardée, le Japon est peut-être encore supérieur, mais le Japon n'a pas de leçons à nous donner en termes d'équipe internationale. C'est le gros reproche que faisait Inafune à Capcom, c'est qu'il trouvait que tant qu'on n'impliquerait pas plus des équipes étrangères dans les jeux japonais, le jeu japonais stagnerait.
Et même pire, il disait, sa phrase, c'est le jeu vidéo japonais est mort. Exactement, il en a même quitté Capcom pour fonder ses studios, les ouvrir un petit peu plus. Pour répondre rapidement à ta deuxième question qui concernait les RPG japonais, on note quand même, on va pas en faire des tonnes, parce qu'après, en plus c'est très subjectif, hein, c'est est-ce qu'on aime ou on n'aime pas le style visuel, la quête, l'histoire, ce genre de choses. C'est vrai quand même, je pense qu'unanimement on sera d'accord pour reconnaître que de l'époque, on va dire Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation même, et Saturn, il y avait beaucoup plus d'offres de RPG japonais qui, aussi bien en termes de valeur de production qu'en termes de vente, faisaient des volumes incomparables avec aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu peu de remises en question de ce modèle-là, et qu'aujourd'hui, si on regarde bien, c'est quelques RPG, donc des jeux de rôle japonais qui sortent par année, alors qu'avant c'était quelques qui sortaient par mois. Et donc ça a effectivement quand même beaucoup changé, et même si tu compares les ventes par exemple d'un FF13, d'un Final Fantasy XIII, à celle d'un Final Fantasy VII ou VIII, c'est la débandade. Donc il y a vraiment effectivement quelque chose qui a beaucoup changé, mais je crois vraiment, pour en avoir parlé avec eux et Julot sur les deux dernières années lors de nos passages au Tokyo Game Show, où on a justement beaucoup parlé avec les développeurs, il y a une prise de conscience progressive qui est en train de s'opérer, et il faut s'attendre quand même à un regain de force, d'énergie, de la part des développeurs japonais qui ont bien compris quand même qu'ils avaient, sur les cinq dernières années, pris du retard. Voilà.
Mais c'est un débat intéressant dans le cadre du podcast, hein, donc merci d'avoir fait ces réflexions.
Bien sûr.
Et, ça permet de faire un bilan passé, présent et pourquoi pas futur.
Tout à fait. Chobilout, est-ce que tu as... Est-ce qu'on a battu le record déjà? Est-ce que...
Ah oui.
Combien?
Ah oui, il y a un de vos précédents podcasts qui parlait des chiffres d'une vidéo, mais c'est un fical record et c'est 107.
Ouh, pas mal, pas mal. Comment ça va? Sophie. Sophie, qui a des doigts de fée. nouvelle question. Jean, voilà.
Bonjour. Alors, bonjour, c'était un dragon. J'aurais une question par rapport aux jeux vidéo et au cinéma. J'aurais voulu savoir si les papas de jeux vidéo ou de séries, je pensais à Akira, Toriyama pour Dragon Ball, est-ce qu'ils ont un droit de regard sur des sorties de films qui se tiennent en fait de leur création? Parce que quand on pense,
oui. Tu peux rester sur Dragon Ball.
Non, mais quand on pense à Mortal Kombat ou à Street Fighter, on sourit, on se dit bon, c'est des jeux de baston,
on pleure.
Un scénario, voilà. Mais pour Dragon Ball, moi j'ai pleuré du sang.
Voilà.
Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a moyen d'empêcher ça?
Avec un peu d'argent, tu sais, dans le 13ème, tu as des gens qui sautent des tours.
On va demander de faire une loi.
Alexis.
Malheureusement, on est dans un ensemble industriel qui s'appelle les industries culturelles. Et bien que ces mots culturels, c'est avant tout des industries. Donc, très souvent, et surtout parce qu'on est souvent dans des rapports entre jeux japonais et productions américaines, hein, si on prend l'ensemble des films en prise de vue réelle qui ont été tirés de jeux vidéo. Et il faut voir que la question de ce qu'on peut appeler l'autorité, quoi, ce qui fait la marque d'un auteur, et toi dans ton rapport à Dragon Ball, Toriyama est l'auteur de Dragon Ball, même ce qui pourrait être interrogé, parce qu'on sait qu'il travaille avec un studio, on sait qu'il travaille avec des assistants, on sait que... voilà. Mais d'une certaine façon, ce qui fait peut-être une partie du plaisir qu'on ait à lire Dragon Ball, c'est qu'on projette la vision d'un auteur dessus. C'est sûr qu'ensuite, quand ça rentre dans des discussions entre un studio de jeux vidéo qui voit l'opportunité de rentabiliser une franchise de jeux, d'avoir une visibilité également, puisque bien évidemment l'impact d'un film, d'une certaine façon, c'est une forme de reconnaissance de l'existence sociale, culturelle d'une franchise de jeux vidéo, ils ne vont pas être forcément très regardants. Et j'en ai deux exemples. J'ai échangé là récemment avec le scénariste de Super Mario Bros., le film de 93.
Il s'est pas fait ses coucous.
Non, il vit très bien, il continue d'écrire des.
Il est fier de lui,
scénario. Figure-toi qu'il a beaucoup d'autodérision sur son travail parce que.
Ah, il en faut. Hein.
Ça a été une commande. Il est arrivé au troisième scénario. Il a écrit le troisième scénario de Super Mario Bros. Le premier avait été fait par le scénariste de Rain Man au départ, et en fait il proposait une sorte de road movie entre Mario et Luigi. Et donc un peu moqueur, ses collègues avaient réintitulé le scénario Drain Man, c'est-à-dire l'homme tuyau, l'homme canalisation. Donc ce qui allait bien pour deux frères plombiers. Ce que Parker Bennett, c'est son nom, m'a dit, moi je lui dis, mais est-ce que Nintendo avait un droit de regard sur ce film? Elle me dit, si c'était Nintendo, au minimum c'était Nintendo of America, c'était vraiment une négociation entre cette entité-là qui s'était implantée aux États-Unis puis qui régnait sur le marché américain. Et en fait, non, il n'y a jamais eu de retour. Une fois que ça a été signé, on a eu finalement les mains assez libres sur ce qu'on pouvait faire de Super Mario Bros. Le film.
Alexis, rappelle-toi, il y a quelques jours, on était avec Christophe Balestra au Carrousel du Louvre, et bien évidemment, vous le savez forcément, il va avoir un film, Uncharted. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir aussi que même chez Naughty Dog, qui sont donc les pères de cette licence, finalement, ils ont un contrôle assez limité sur ce qui va se passer.
Quel dommage.
Et oui, effectivement. Et que, bon, en gros, ils disent bien, nous, on fait des jeux, eux, ils font des films. On n'aimerait pas qu'ils nous disent comment faire notre jeu. Et ben, eux n'aiment pas qu'on leur dise comment il faut qu'ils fassent leur film.
Ouais.
Florent.
Ouais, c'est vrai que, bon, mais comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, j'ai vu en 93 Super Mario, j'en attendais beaucoup, j'ai pleuré des larmes de wasabi, moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait, je sais pas, hein, après tu pourras me corriger Alexis, mais je pense que Nintendo, avec la politique de licensing, ne permettrait plus ce genre de choses. Et on constate que depuis, plus jamais aucun jeu Nintendo n'a été adapté, et on peut être certain que la licence Mario, Zelda, ils ont tous eu de fortes demandes.
Si je peux me permettre, le scénario des Mario, par exemple, quand même, ne donne supra l'envie de faire des aventures cosmiques.
C'est compliqué, mais...
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un film Mario ?
Peut-être, mais c'est une licence... Ben, tu sais, c'est quand même une licence qui permet de largement, normalement, hein, si tu t'y prends un minimum... Tu rentres largement dans tes frais, enfin, ça reste du licensing, oui. C'est du marketing. Mmh. Donc peu importe le scénario, du moment que tu donnes du plaisir aux joueurs.
Mais vu qu'on parlait d'Uncharted, tout de suite, j'imagine que ça sera plus simple pour le scénariste d'Uncharted de trouver quelque chose de consistant pour un long métrage.
À la fois, ils sont en train de partir sur une histoire de famille. Je sais pas, vous avez vu une famille dans l'Uncharted?
Je suis pas au courant. Alors que bon, les histoires de tortues, de champignons magiques, de...
Et bah tu les fais dans une espèce de film à la Pixar.
Ah, là, ouais.
Voilà. Tu peux faire un film sur Mario.
Il y avait eu
Las Vegas Park.
Le deuxième draft du script de Super Mario, c'était un réalisateur là, dont le nom échappe, mais qui avait fait un petit succès de film pour enfants au début des années 90, qui s'appelait Mom and Dad Save the World. C'était quelque chose. Alors allez voir les images de Mom and Dad Save the World. Alors c'était vraiment le trip champignon géant, étoile magique, voilà, enfin quelque chose assez. Mais c'est sûr que je pense qu'ils ont pris la leçon de ce problème que Mario, et Parker Bennett il le dit, le problème c'est que quand on adapte Mario, on n'a aucun contenu narratif à disposition, et finalement tu dis mais c'était quoi votre commande? Ben, c'était un film à la Ghostbusters. C'est-à-dire que le producteur a dit, il faut nous faire un Ghostbuster-like pour ce scénario, et c'est là-dessus qu'ils sont partis. Ce qui explique, d'une certaine façon, quand tu as cette image-là de Ghostbuster, tu revois le film un petit peu différemment. Puis quand tu le réinsères dans le monde, enfin, le contexte de la production des années 90, c'est étonnant tous les parallèles que tu peux faire entre la première version des Tortues Ninja et ce Super Mario Bros. New York, la caractérisation de Luigi qui ressemble beaucoup à celle de... Je crois que c'est Raphaël, le plus farfelu des...
Michelangelo,
le plus farfelu des Tortues Ninja. Merci. Et voilà, il y a toute une série de relations que tu peux faire entre les deux.
Ouais. Florent. Moi, je vais être très court pour conclure là-dessus, mais c'est vrai que je pense aussi qu'en 93, replacé dans le contexte, Nintendo explose avec la Super NES, etc., de façon worldwide, plus qu'avec enfin, en même temps qu'avec la NES, hein, Mais Nintendo, dans le monde de l'entertainment et du loisir, c'est pas un complexe, mais à mon avis, je pense que la direction de Nintendo of America se dit on a tout à gagner. Finalement, c'est une reconnaissance phénoménale, c'est un coup de pub, mais alors magistral pour la mascotte et pour le... Donc finalement, ils n'ont pas été très regardants parce qu'ils se sont dit bah, de toute façon, on a tout à y gagner. Et ils ont visiblement quand même validé le scénario. Hein. Miyamoto, on sait de source sûre qu'il a eu le scénario entre les mains. Il l'a quand même finalement validé. Donc
on répondra.
Oui, ben,
c'est pas compris, ça, c'est super.
Oui, mais il y a peut-être un peu un complexe finalement qui se dit que attends, le cinéma vous offre, Hollywood vous ouvre ses portes, on peut pas refuser. Il y a peut-être aussi un peu de ça, c'est pour ça que.
Il y a de ça, et c'est vrai qu'il y avait des propositions qui avaient été refusées auparavant, que Nintendo par exemple voulait absolument avoir Danny DeVito qui n'était pas disponible puisqu'il était sur le tournage de Batman 2. Donc il y a des éléments comme ça. Puis l'autre chose, juste pour compléter, c'est-à-dire qu'un film comme le Street Fighter avec Van Damme et Rob Julia. J'entends des crissements dedans, mais pensez bien qu'aujourd'hui, ça rapporte encore en 2011 de l'argent à Capcom chaque année, ce film-là. Et ça rapporte des sommes qui cumulées sont c'est un vrai petit paquet d'argent et de dollars.
La série des Resident Evil faite par Sony Pictures, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est la saga cinématographique la plus rentable de l'histoire de Sony Pictures, bien devant des Spider-Man, parce que ça coûte infiniment moins cher à faire. Et finalement, ça fait pas mal d'entrées en salle et ça fait des cartons de VOD. Donc, parce qu'en fait, les gens n'osent pas y aller vraiment. Mais après, c'est peut-être pas si pourri. Et puis, hop, ils téléchargent et puis 4 euros.
Voilà, donc c'est vrai qu'on est peut-être un peu cynique en faisant ce type d'analyse-là, mais depuis, ils s'en sont rendus compte. Mario, c'était inadaptable. Toutes les adaptations en prise de vue réelle après, elles se basent sur des jeux qui ont des bases cinématographiques très affirmées. Le film d'arts martiaux, le film d'aventure, le film d'horreur, le film de science-fiction, qui font des jeux comme Doom, qui font des jeux comme Lara Croft, qui font des jeux comme Street Fighter, et qui sont réinvestis ensuite dans la forme cinématographique, ce qui facilite bien évidemment le processus de transfert d'une forme à l'autre.
Allez, on va prendre encore quelques questions, il nous reste encore quelques minutes ensemble, donc profitons-en.
Bonjour.
Bonjour.
Moi je m'appelle Pierre, tout simplement. C'était une question pour Alexis, mais également pour tout le monde, c'est à propos d'Uncharted. Donc visiblement, Nathan Drake va être incarné par Mark Wahlberg. Donc Mark Wahlberg, bon, c'est un bon acteur, mais qui fait quand même pas mal de daube entre deux bons films, je trouve. Et je trouve qu'il n'a pas du tout le style de Nathan Drake. Alors vous, quel aurait été l'acteur idéal pour ce rôle? Sachant que moi, j'ai ma petite idée.
Alors, quel serait ton idée?
Gerard Butler était pas mal, mais il est un peu trop costaud. Mm. Josh Duhamel, il est pas mal, mais un peu trop lisse. Alors,
c'est encore d'actualité.
C'est bien chiaise, non, moi, je propose.
Non, non.
Je crois que ce n'est plus d'actualité, hein, Mark Wahlberg.
C'est... Le casting, effectivement, ça n'a pas l'air d'être très établi. C'est vrai qu'on a eu, il a été évoqué aussi, comment s'appelle-t-il, cet acteur très célèbre, je ne sais plus. Mais il y a beaucoup de noms qui ont circulé. Moi j'aurais vu, alors je ne me rappelle pas comment il s'appelle son nom, mais.
Il joue dans quoi?
De qui?
L'acteur dont tu
joues. Il joue dans. Bon, quelqu'un d'autre, ça va m'en venir.
Je
ne peux
pas t'aider, je suis
dans
Castle Hollywood.
Dans Hangover, le premier. Dans L'Agence Turisque. Bradley Cooper, voilà. Vous lui un petit peu les cheveux plus courts, etc. Pourquoi pas, hein.
C'est là qu'il a la gouaille.
Le mec cool, un peu baraque, mais un peu. Ça va, c'est adaptable à un mec.
Beau gosse dirty. Hein.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Dirty beau gosse, c'est là.
Oui, enfin, là on se retrouve dans des problèmes de casting, c'est-à-dire pour certes il y a Uncharted et nous on est joueurs ici donc c'est ce qui nous intéresse sur ce film Uncharted, mais moi je serais curieux d'aller voir tous les spectateurs qui sont allés voir Prince of Persia.
Qui est pas si mauvais que ça. Hein.
Et de voir. J'ai pas trouvé.
Non, 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 mais dans la catégorie des films adaptés de vidéo.
On va voir ces spectateurs qui sont allés en salle payer leurs 9,50€ pour aller voir Prince of Persia et on leur demande c'est quoi Prince of Persia. Ils vont vous dire c'est un film des producteurs de Pirates des Caraïbes et qu'il y a une bonne partie qui sont complètement ignorants qu'il y a un jeu vidéo derrière, c'est pas l'objet. Donc ce qui veut bien dire que pour le casting, et ce qui explique peut-être le choix ou mon choix de Mark Wahlberg, il va falloir une tête d'affiche. Il va falloir un film qui soit porté par une star hollywoodienne, et la star, on sait que c'est ce qui, dans le financement d'un film, est le plus porteur.
Et en général, la star, c'est pas celui dont t'arrives pas à te rappeler le nom. Donc c'est Mark Wahlberg.
Et donc voilà, donc... moi, je sais pas, je trouve que l'acteur de Lost, comment il s'appelle
Le même syndrome.
C'est pas comment ça va à fond du.
Voilà, c'est Jack. Jack, donc, voilà. il serait pas frère Nathan Drake, pas
trop mal. Matthew Fox.
Mais il a pas la carrière de star, donc c'est possible.
Oh. Il est pas bankable.
Il est pas bankable, Matthew Fox. C'est une vedette de la télévision qui fait du cinéma, c'est pas une star.
Et effectivement,
les stars, ça se compte sur les
deux mains.
Sur les dalles à Hollywood. Ouais.
Donc à suivre, mais effectivement.
Mais en même temps, ça pourrait être un destin à Angelina Jolie. Hein.
Effectivement, ça c'est intéressant de souligner à quel point sa carrière a été lancée par ton valeur.
Voilà. Donc il y a peut-être une vedette en devenir qui peut passer au statut de star.
Cela dit, Angelina Jolie, elle passait bien dans le rôle quand même.
Oui. Ah oui, en plus de ça.
Après Mark Wahlberg.
Et Mila Jovovich aussi a connu un regain de popularité finalement après les Resident Evil alors qu'elle était un peu dans le creux de la vague.
Ouais. Par contre, l'acteur de Mario lui est tombé au tréfonds. Mais...
Bah, il est resté bloqué dans un tuyau.
Il savait même pas qu'il tournait l'adaptation.
Oui, c'est ça. C'est Bob Hawkins, c'est ça.
C'est Bob Hawkins, c'est John Leguizamo qui a dit ça dans ses mémoires.
Un jour, il y a personne à dire. On fait quoi comme film?
C'est bizarre quand même.
ça part mal hein, dans le genre de cas quand même. Allez, une autre question.
Donc, bonjour, c'est Sama sur le blog. Moi je voudrais en fait parler un peu du futur du jeu vidéo, notamment je pense là à mon neveu Gabin, qui a 4 ans et demi, avec qui j'ai commencé à jouer sur certains jeux. Je l'ai même mis sur Rock Band, mais ça n'a aucun rapport. J'ai tapé sur la batterie, c'était marrant. Et je pensais à Julo, à sa petite fille qu'on a pu voir notamment sur des vidéos sur le site. Et justement, si on prend des enfants qui ont 3-4 ans aujourd'hui, et dans 10 ans, en fait, quand ils vont vraiment peut-être se mettre à jouer, comment ils vont jouer, avec quoi ils vont jouer. Je pense aussi par rapport à l'iPhone, au Snack Gaming, où on joue très rapidement sur des jeux au gameplay très rapide, et même mon neveu voilà, que j'ai fait essayer, il peut comprendre tout de suite. Voilà, dans 10 ans, quand ils seront adolescents, ils auront quoi? Ils joueront avec quoi? Par rapport à ce qu'on a nous aujourd'hui, on est dedans, bah, si je reprends moi mon expérience, j'ai commencé il y a 15 ans avec la Nintendo, je vois comment ça évolue aujourd'hui. si on part d'aujourd'hui, on a la PlayStation 3, donc on va dire la Wii et la PlayStation 3 et Xbox, dans 10 ans, il y aura quoi? Dans 15 ans?
C'est intéressant, et je rebondis sur ta question pour souligner celle qu'on nous avait posée sur gameblog.fr, c'était Tintounet qui nous en parlait, et qui nous parlait d'une technologie qui existe déjà, hein. C'est une technologie d'interface neuronale, elle s'appelle le Emotive System. Alors pour l'instant, c'est pas encore très médiatisé, mais c'est vrai que vous avez peut-être vu cette pub, qui est une fausse pub, hein, pour une espèce de télécommande qui est une pub pour le câble et le satellite, mais qu'on se met comme ça sur le crâne, et qui interprète les signaux. Mais aujourd'hui, ça marche, alors avec des dimensions très restreintes, hein, c'est va à droite, va à gauche, ce genre de choses, mais moi je pense vraiment, puisque tu parlais à 10 ans, qu'on serait surpris de voir à quel point la manette, avec ses 15 millions de boutons, va tomber en désuétude. Elle va, je pense, être livrée avec les machines pour des expériences plus gamers, parce que les gamers aujourd'hui font partie d'une composante importante des joueurs, mais que forcément les machines auront de base un Kinect-like, un Wiimote-like, un PS2-like, qui permettra d'avoir vraiment d'autres expériences de jeu qui s'affranchiront d'une notion de « il faut apprendre des touches ». Moi, je vois par exemple, même le stick analogique, on a les personnes qui sont ici dans la salle, globalement, on a tous grandi avec ça, ça nous paraît enfantin, on ne comprend même pas qu'on puisse pas aller tout droit avec un personnage. Moi, j'ai vu mes parents, par exemple, jouer à des Zelda, et se galérer grave, ne serait-ce qu'aller tout droit avec Link. C'est-à-dire qu'ils tournaient dans tous les sens, parce que c'est complexe. Et la force aussi des smartphones aujourd'hui, c'est d'avoir des interactions extraordinairement rapides, immédiates, faciles à prendre en main, et je pense vraiment le succès de Kinect, le succès de la Wii, le succès finalement de la DS avec ce stylet, moi je trouve sont des signes très clairs que les gens, la masse des gens veulent se divertir avec simplicité et que du coup la manette va au fur et à mesure changer en tout cas de forme, voire même disparaître.
C'est difficile d'ajouter quelque chose, t'as couvert tout le stuff. Je suis complètement d'accord avec toi, et puisque cette question me permet de fantasmer, effectivement les interfaces neuronales, etc. Moi si on pouvait mettre un switch derrière l'oreille et me dire que je peux tout faire avec ça, je signe tout de suite. Je fais partie des cobayes. C'est très rêvé. Voilà, comme ton costume de Shell, tu vois. Pourquoi pas, ouais, je sais pas.
10 ans, c'est peut-être trop court. 10 ans, ça ferait une génération et demie de machines. Mais c'est vrai que c'est des études qui sont vraiment menées. Et est-ce que, franchement, il y a 10 ans, rappelez-vous à quoi on jouait? Regardez technologiquement ce qui sont les valeurs de production des plus beaux jeux aujourd'hui, et même le style de jeu. Est-ce qu'on s'imaginait bouger, gesticuler? Pour l'instant, c'est pas encore très précis, on est tous d'accord. Mais vraiment, dans 10 ans, ce sera affiné, et je pense qu'on sera véritablement surpris. On entend reparler aussi des histoires de réalité augmentée, de réalité virtuelle, ce genre de choses. Moi, je crois beaucoup aussi à la réalité augmentée, et de faire de son salon un terrain de jeu. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que si demain, il faut se cacher derrière son canapé. Je pense que l'interaction physique, en tout cas, va devenir de plus en plus importante dans le jeu vidéo.
Appartement
Kinect Ready. Exactement, l'appartement Kinect Ready. Voilà, sur ce loger, il y aura marqué, vous avez fait quantique, vous êtes Kinect Ready, vous êtes parfait.
Mais c'est vrai qu'on est dans les prédictions de Nostradamus, donc il est difficile aujourd'hui de savoir exactement. Donc on ne peut qu'imaginer. Moi, je verrais bien, effectivement, la réalité augmentée, mais sans écran. Voilà, alors, comment ce sera possible, j'en sais rien, mais en tout cas...
Les hologrammes.
Ouais, enfin voilà, une sorte d'hologramme, donc peut-être, comme tu disais, des appartements équipés de quelques capteurs, etc., qui permettraient, je sais pas, des salles de jeu qui s'adaptent à la taille de ton salon, avec des écrans qui permettent de jouer de la réalité augmentée sans écran. Je pense que c'est ce à quoi on est amené à venir, est-ce que ce sera vrai ou pas, seul l'avenir nous le dira, mais on se rend compte quand même que, tout à l'heure tu soulevais ton fils à 4 ans, ton neveu à 4 ans, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin il y a 10 ans c'était encore pire, quand tu le mettais devant une console de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer en termes de software? On leur proposait mais que des jeux avec des boutons PlayStation 2, parce que c'était ou Nintendo 64, c'était pas accessible du tout. Nous quand on a commencé les jeux vidéo, c'était deux boutons, voire un pour ceux qui ont commencé avec une Atari 2600.
Et ça s'est complexifié.
Ça s'est considérablement complexifié. Bon, c'est la base de réflexion de la Wii, hein, tout simplement. Et même de la DS avec l'écran tactile, simplifier le jeu vidéo pour en donner à tout le monde, et pas uniquement à une souche de gamers. Donc je pense que Nintendo a ouvert la voie, on est dans le casual gaming à outrance avec le snack gaming comme on dit, il y a aussi des jeux pour gamers, de toute façon il y en a pour tout le monde, je crois que tout le monde en a pour son argent,
et d'ailleurs,
et il faut je pense que ça va continuer comme ça, il y aura des petits jeux très simples, avec un bouton, ça continuera, il y en aura toujours sur les grosses consoles,
et ou les grosses interfaces du futur.
Et d'ailleurs, Florent, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est l'avènement du casual gaming, comme si quelque part c'était un gros mot finalement par rapport aux jeux vraiment avec des grandes aventures pour hardcore gamers. Il ne faut pas oublier, tu vas me dire si je me trompe, mais que à la jeunesse du jeu vidéo, c'était l'avènement du casual gaming. La bonne partie des jeux était finalement très casual, des expériences assez simples, des quêtes au score.
Ah oui, bah, de toute façon, un pont, tu ne peux pas faire plus simple
Tetris,
et accessible. Oui, de toute façon.
Il y a une limite technologique aussi à cette époque. Il y a aussi. C'est que maintenant, tu choisis aussi de rendre casual, alors que la technologie n'est plus un frein.
Mais un Space War, par exemple, qui est considéré comme l'un des premiers jeux, on va dire, commerciaux, fait par Nolan Bushnell, ça a été un flop parce qu'il était trop compliqué. Parce qu'ils ont commencé le premier jeu qu'on a mis dans les bars, c'était visiblement celui-ci, mais trop compliqué. Donc finalement, ça a fait un flop. Mais ben, il s'est dit, bon, on va faire un truc plus simple, c'est devenu Pong. Et là, Pong a commencé à accrocher. Donc on a commencé par du casual gaming quelque part. Tu peux pas faire plus simple qu'un Pong en termes de jeux vidéo.
C'est pas compliqué.
Mais
il y a une autre complexité en plus.
Ouais, c'est très élaboré par rapport à un Pong. Mais de toute façon, on a créé le marché du jeu vidéo, s'est développé avec des choses basiques, simples. Il n'y a pas plus. De toute façon, le sport, les jeux, une balle, voilà, ça fait un jeu, ça fait un sport.
Football,
et
voilà,
c'est la même chose.
C'est simple.
De toute façon. Donc, il y aura le jeu vidéo s'est complexifié, a perdu beaucoup de son public, ça c'était vrai. Même si les joueurs hardcore aujourd'hui se sentent un petit peu trahis par certains fabricants, moi je suis pas vraiment d'accord sur ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. À moins que vous soyez tous très riches, moi j'ai pas du tout le temps de jouer à tous les jeux de gamers qui me font envie, mais enfin le temps et l'argent aussi. Donc je pense que ouais, le jeu vidéo dans le futur, on va devant de très belles innovations technologiques et puis en termes de software, bah, je pense qu'on va continuer un peu dans cette voie avec de nouvelles innovations, mais des jeux simples pour les enfants, pour les personnes âgées, les non joueurs. Et des jeux toujours aussi prenants, compliqués et immersifs pour nous.
Allez, on va prendre deux dernières questions avant de finir cette rencontre.
Oui, bonjour.
Très beau t-shirt.
Merci. Vient pas beau, donc mon pseudo sur... Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que finalement toute cette période qu'il y a eu entre la Super NES et là maintenant avec la Wii, ont finalement coupé une partie des gens du jeu vidéo. Je veux dire, avant ça, mes parents jouaient beaucoup aux jeux vidéo sur la NES, à l'époque où il n'y avait que deux boutons, ils jouaient déjà beaucoup moins sur la Super NES quand il y avait déjà plus de boutons, plus les gâchettes et tout ça, et dès qu'on est passé au stick analogique, ils sont complètement désintéressés du média, et là ils commencent à revenir sur la DS grâce à l'écran tactile. Donc pensez-vous pas que toute cette période où il n'y a pas eu justement de casual gaming, a fait qu'une partie des gens ont cessé de jouer tout simplement.
Je pense qu'il y a du vrai, avant de laisser Julot et Florent visiblement répondre, mais je pense aussi qu'il y a une question d'âge. C'est-à-dire que tes parents, et même nous aujourd'hui, quand tu es jeune, tu as largement le temps d'investir du temps de jeu, quand tu deviens un jeune adulte, tu as un peu moins de temps. Quand tes parents t'ont eu, ils ont eu probablement encore moins de temps, et du coup ils ne peuvent pas se lancer dans des grandes aventures ou ce genre de choses, et effectivement il faut des expériences beaucoup plus rapides. C'est aussi ça le succès du casual gaming sur les smartphones, c'est qu'on peut y jouer très rapidement, à tout moment, pour des prix dérisoires, parce que ces gens, beaucoup, n'ont pas le temps d'investir en temps et en argent suffisamment dans le jeu vidéo. Et ça revient peut-être un peu plus tard, quand tu as un peu plus de temps, tu as envie de t'y remettre. Julot, Florent ?
Il y a quand même un phénomène de complexification qui a entraîné aussi une complexification et surtout une demande en temps, d'investissement en temps que les joueurs de NES que nous étions ne pouvions plus donner sur des Final Fantasy 6, 7, 8 qui
demandaient 80 heures, c'est compliqué.
C'est compliqué quand on commence
à entrer dans la...
Voilà. Et forcément, moi j'ai un paquet d'amis aussi qui ont quitté les jeux vidéo après la Super NES parce qu'ils devenaient étudiants et puis que voilà, ils s'intéressaient à d'autres choses aussi. Et la PlayStation a fait revenir, en tout cas, un certain nombre d'adultes, certes, mais le constat de Nintendo était simple, c'est qu'il y a un potentiel qui est 10 fois plus important que ce qu'on peut imaginer, et on se cantonne toujours aux gamers et aux geeks qui s'intéressent à la technologie. Donc oui, il y a eu une perte évidente, pas forcément en termes d'intensité, parce que les gamers étaient de plus en plus là et présents et on les entendait, mais en tout cas, il y a eu c'est pas vraiment une perte, alors peut-être c'est plutôt un manque à gagner gigantesque. Et Nintendo l'a bien compris.
Julot.
C'était exactement ce que je voulais dire, mais effectivement, on se souvient que dans les premiers discours d'Iwata, le président de Nintendo, qui a réussi tous ses paris jusque-là, c'était effectivement l'idée de récupérer les hardcore gamers, les new gamers, et ce qu'il appelait, je crois, les lost gamers. Oui, c'est ceux-là dont tu parles, en fait.
Ceux qui jouaient.
C'est ceux qui jouaient, qui ont arrêté de jouer. Et effectivement, qui aujourd'hui, quand ils voient la pub de New Super Mario, qui est vraiment axée pour eux, c'est « Ah, Mario, tu sais, j'y jouais quand j'étais petit, etc. » C'est le Lost Gamer, et c'est celui dont tu parles.
Pour conclure là-dessus.
Oui, il y avait une enquête dans les années 90 qui avait été menée par l'industrie américaine, l'industrie du jeu vidéo s'inquiétait de voir qu'il y avait une pratique du jeu vidéo qui allait à peu près jusque vers 14-15 ans, et puis qui s'arrêtait assez net. Ces joueurs qui avaient joué dans leur enfance s'arrêtaient à 14-15 ans et reprenaient, grosso modo, vers 22-23 ans. Donc il y avait un trou dans la pratique du jeu qui s'expliquait par la découverte de la sexualité, les sorties, l'alcool, enfin tout ce qui fait la fin de l'adolescence. Il semblerait, alors c'est toujours des chiffres de l'industrie, c'est un peu le souci, mais il semblerait que cet arrêt de la pratique se soit amoindri depuis les années 90 pour aujourd'hui avoir des pratiques qui sont continues, en fait, de l'enfance jusqu'à l'âge.
Et maintenant, tu as même des jeux pour te chauffer avant de...
Tu penses à le jeu d'Ubisoft.
Le jeu d'Ubisoft, c'est
un petit fleur
c'est ça.
Mais c'est vrai aussi que la moyenne d'âge du joueur a vraiment complètement changé aujourd'hui. C'est un trentenaire, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est une trentaine d'années. En France, je crois que c'est un petit peu plus de 30 ans. Et aussi, la proportion de femmes, de joueuses, a explosé. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, elle représentait moins de 15% des joueurs, une dizaine de pourcents des joueurs. Aujourd'hui, on arrive parfois à plus de 40%, ce qui est absolument colossal. Et c'est bien.
Et puis dans les déclarations, moi je suis frappé de demander à des gens que vous êtes joueur de jeux vidéo. Ah non, le jeu vidéo ça m'intéresse pas du tout. Et le soir, de les voir sur internet faire des jeux qui sont des jeux vidéo. Ou d'avoir une DS. Ah oui, mais c'est pas tout à fait la même chose.
L'acceptation
sociale. Donc il y a aussi encore un petit peu de difficulté parfois à s'assumer comme joueur publiquement.
Allez, on va prendre la toute dernière question, elle a intérêt d'être extraordinaire, c'est Stokosmi. C'est une responsabilité de malade. Hein. Comment tu t'appelles ?
Bonjour à tous, donc je suis Simplex, membre Gameblog, prochainement Premium.
Ah bon ?
Bravo !
Disons un peu plus spontané. Merci Simplex.
Donc, je vais casser un peu la dynamique des questions, parce que je voudrais revenir sur...
Bien dans le micro.
Oh, pardon. Je voudrais revenir sur le rapprochement en fait qui a été tenté à maintes reprises entre le jeu vidéo et le cinéma. Donc je profite des représentants du monde du cinéma en fait sur ce plateau pour poser en fait la question qui
attention elle arrive.
Alors je suis un grand fan de cinéma et de jeux vidéo depuis très longtemps, et je me pose une question, je me demande en fait, si dans les tentatives qui ont été faites, à majoritairement un peu raté, pour être franc, j'aimerais savoir si on n'essaye pas quand même de mélanger l'eau et l'huile, parce que j'ai l'impression que les motivations sont plus économiques que la tentative en fait de marier deux arts pas forcément exactement.
En gros, que les jeux au cinéma seraient finalement des produits marketing et pas des œuvres.
C'est l'impression. Et je pense que mon avis a un minimum de crédibilité parce que je suis à la fois un fan de cinéma et un fan de jeux vidéo. Et quand je vais voir un film au cinéma, je ne demande pas en fait à ce qu'on voit ce que je veux pas.
On aussi dans l'aventure.
Exactement. Pour moi, les motivations sont essentiellement financières et publicitaire, c'est-à-dire en termes d'image.
Est-ce qu'il y a quand même...
Je me demande si des avis, enfin, les professionnels qui sont sur le plateau ont le même avis que moi.
Mais est-ce qu'il y a quand même une adaptation qui a trouvé une ou plusieurs
Il y a quelques adaptations moins ratées que d'autres.
Comme
je vais...
Silent Hill, j'entends, Silent Hill pour certains.
Silent Hill, peut-être.
C'est la meilleure.
Et encore. Alexis ?
Oui, elle est assez jolie ton image d'essayer de mélanger l'huile et l'eau. Ça fait parfois de la vinaigrette et finalement ça peut être un condiment qui va donner un peu de saveur à un plat. Moi, je vais me placer du côté du jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début des années 90 ? C'est l'arrivée des moteurs en 3D. Il y a eu le développement d'un segment particulier qui fait aujourd'hui partie de la syntaxe du jeu vidéo, c'est-à-dire son organisation dans ses différentes séquences.
c'est la séquence cinématique. Le jeu vidéo s'est emparé des manières de faire du cinéma pour intégrer à son propos, et parfois développer très largement, si on renvoie vers les Final Fantasy des années, des années 90 jusqu'au début des années 2000, il y a vraiment cette capacité du cinéma, du jeu vidéo à aller pirater très largement les manières de faire, de raconter des histoires qui étaient celles du cinéma. Et quand tu vois à la fois l'accueil critique par la presse spécialisée à l'époque, et même les succès de vente et des jeux, vraisemblablement les joueurs ont accepté d'une certaine façon cette entrée des manières de faire du cinéma, de filmer, la grammaire du cinéma dans le jeu vidéo. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, je voulais juste intervenir. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dans un sens, ça marche mieux que dans l'autre. C'est-à-dire qu'on intègre plus facilement du cinéma dans le jeu vidéo que le contraire.
Ouais, donc ce qui veut dire qu'il y a bien des choses qui circulent entre les deux. Et puis, il y a par exemple un film que je trouve particulièrement vidéoludique et qui est sûrement une des comédies américaines les plus réussies des années 90, c'est Un jour sans fin. Le film d'Harold Ramis qui joue sur le die and retry finalement, hein, c'est-à-dire cette mécanique du jeu qui veut qu'on avance, on perd et puis
et
tu as plusieurs séquences dans le film et qui passent par le montage où on sent que le scénariste il pensait sur un modèle qui provenait assez clairement du jeu vidéo en refaisant recommencer son personnage interprété par Bill Murray au moment où il avait échoué avant et qui a un enjeu comique et dramatique qui se joue là, qui est très intéressant et qui, moi, me semble, du point de vue d'un analyste du cinéma, être une bonne exploitation, sur un cas où je le conçois un peu très précis, de mécaniques qui proviennent d'un rapport à l'histoire, d'un rapport à l'image qui vient du jeu vidéo.
J'espère qu'on a répondu correctement à ta question, Simplex. Merci en tout cas, parce que maintenant, on va poser deux petites dernières questions qui nous viennent de gameblog.fr. Alors, pour vous, Alexis et Florent, on va commencer avec toi, Florent. Il y a une question de Nebukadromua qui demande, puisque tu es donc l'auteur de l'histoire de Nintendo, déjà 3 volumes, est-ce que tu as d'autres projets et quel en serait le thème? Est-ce que tu vas t'intéresser après la NES à la Game Boy, à la Super Nintendo ou peut-être même à Sega?
Oui, m'intéresser à Sega, j'adorerais. C'est vrai que ça demande un investissement en temps considérable pour prétendre vouloir faire la même chose qu'avec l'histoire de Nintendo. Le prochain volume en préparation, c'est sur toute la gamme des Game Boy, plus Virtual Boy, parce que je pense que ça fait partie de la même famille, créée par les mêmes équipes. Le dénominatif Boy aussi ne trompe pas.
Il faut combien de temps, généralement? Je crois que c'est long, hein. Il y a des vraies recherches derrière, c'est plusieurs mois.
Le gros des recherches est fait, bon, ça fait 9 ans que je les poursuis, hein, bien sûr, mais pour sortir un livre, il faut 1 an, voilà. D'accord. Entre les deux. Donc déjà cet investissement en temps est considérable et m'empêche un petit peu de me consacrer à d'autres recherches, en tout cas de nouvelles. Mais j'ai un autre projet qui est assez confidentiel mais plutôt sympa, qui est une nouvelle biographie d'un créateur qui gagne à être connu, c'est monsieur Kishimoto. Pour les lecteurs de Pixel 9, peut-être que ça leur parlera. Mais il a créé un certain nombre de jeux très très novateurs comme Double Dragon, toute la série des Kunio. Les Road Blaster, Thunderstorm, les jeux Mega CD qu'on a tous adoré à l'époque, etc. Donc il a fait un certain nombre de jeux de l'époque Technos Japan et il a une vie absolument rocambolesque. Donc ce ne sera pas forcément un grand succès. Voilà, les gens ils veulent du Miyamoto, ils veulent du Kojima, ils veulent du Sakaguchi, etc.
Mais est-ce qu'un jour tu te pencheras justement sur ces personnalités?
Ben, j'aimerais bien, mais il faudra qu'ils nous ouvrent leurs portes. Or, aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que c'est très compliqué d'obtenir la moindre interview d'une demi-heure. Donc passer 2 jours, 3 jours en leur compagnie pour leur poser des questions sur toute leur vie, du matin jusqu'au soir, se poser autour d'une table, autour d'une bonne bière pour qu'ils nous racontent leur vie, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il n'y a que toi, Julien, qui a réussi à le faire avec Kojima, mais c'était surveillé.
C'était un moment assez unique.
Voilà, donc moi j'adorerais, bien sûr, on nous demande souvent quand est-ce que tu vas faire une bio sur Miyamoto. Moi je veux bien, mais faire une bio sans son aide, c'est quand même assez compliqué. Il faut qu'il y ait un minimum de crédibilité. Une biographie, ça se rédige avec la personne concernée. Donc le jour où, je l'espère, Nintendo nous ouvrira leurs portes, mais ça, il faudra les franchir les portes, hein. C'est-à-dire en apportant des bouquins de qualité, comme des bouquins comme Gunpei Yokoi, Takara Shimejin, qui valent leur pesant d'or à leur niveau.
Absolument exceptionnel.
Au bout d'un moment, peut-être qu'ils se diront, bon, ben, finalement, on peut leur faire confiance si ils n'écrivent pas que des bêtises. Donc, peut-être qu'un jour.
Et tu aimerais les éditions en japonais?
Ouais, ce serait bien. Mais
pour que ça leur soit accessible, justement.
Ouais, mais en tout cas, il y a des tonnes de créateurs de jeux vidéo, qu'ils soient occidentaux hein, ou français, enfin peu importe la dénomination, ou même japonais, qui ont plein de choses à raconter qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que pour que le jeu vidéo devienne une culture, à part entière, il faut des visages. On n'a pas assez de visages. On a 2-3 visages en France, il y a une dizaine de visages au Japon, mais c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc tant qu'on n'aura pas plus de visages, et je pense que c'est à nous, chercheurs, journalistes, de mettre en avant ces visages et de donner une âme au business, qui n'est pas qu'un seul business, mais à la culture du jeu vidéo. Donc c'est ce à quoi je vais essayer de m'attacher, avec des noms qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont des choses à raconter, et qui feront avancer le Schmidbeek et les recherches sur l'histoire du jeu vidéo. Voilà.
Ben merci beaucoup Florent, je crois qu'on peut l'applaudir vraiment pour le travail qu'il effectue depuis maintenant 2 années. Et c'est vrai que le dernier ouvrage qui sort de 2022-2023, l'histoire de l'ENS aux éditions au MacBook et Pixelmob, effectivement, c'est un véritable vivier d'anecdotes et de choses qu'on ne savait pas hein, jusqu'à présent. Et que tu nous permets comme ça de découvrir. Merci. De ton côté aussi Alexis, beaucoup de questions, parce que des pixels à Hollywood, maintenant c'est sorti il y a quelques mois, est-ce qu'on peut imaginer un nouvel ouvrage qui parlerait comme ça encore, mettrait peut-être la suite avec de nouveaux intervenants ?
Les pixels de retour, on va voir. Pour l'instant, il y a quelque chose qui se prépare du côté de Pixel Love et qui va poursuivre cette réflexion sur le cinéma et les jeux vidéo avec contributeurs qui viennent du Canada, qui viennent de France, qui vont dire des choses, et puis des interviews, entre autres celle du scénariste de Mario Bros. Et puis, un mais très intéressant, vous l'avez parlé
avec... Oh, nous sommes en ce
moment. Parker Bennett.
Parker Bennett.
Ne perd jamais. Et
en français, ça veut Parker Bennett.
La deuxième chose, c'est qu'il y a 5 jours, j'ai envoyé un texte que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, parce que c'est un texte en anglais, qui va être publié dans la première encyclopédie du jeu vidéo, qui va être publié aux États-Unis par Mark Wolf, qui est à l'Université du Texas. Ça va être un ouvrage fabuleux, c'est tous les chercheurs à travers le monde qui travaillent sur le jeu vidéo, et ils sont partis sur ce défi de faire une encyclopédie, mais c'est Horizon Printemps 2012.
Je crois aussi qu'on peut applaudir Alexis pour son travail autour de la culture du jeu vidéo. Parce que bien évidemment ici on est aussi entre joueurs, mais il y a des gens, il y a des chercheurs qui contribuent justement à populariser, à démocratiser comme ça ce qui nous passionne, ce média assez unique. Tchoubiloute, il est temps de conclure le grand concours, notre fil rouge, attention au micro. Alors viens, qui, un petit peu de suspense, viens avec nous. Hop, montre-moi un petit peu les scores, on en est où, ça donne quoi? Je vois que vous avez été très nombreux à participer, c'est monté assez haut. Alors, il y a 75, 100, 96, 82, 89, 64, 94, mais il y a surtout 107, et je vous demande de l'applaudir, c'est Sophie! Tout comme vous le voyez, c'est comme... Bravo Sophie! C'est assez symptomatique quand même, c'est une joueuse qui l'emporte aujourd'hui.
Et chercheuse.
Ah, et chercheuse. Oui. Alors attends, mets-toi, tourne-toi bien, voilà.
Bon bah pour dire que les gars avec Mr. Splash, ils ont fait un flop. Donc la question qui tue quand même, hein, Sophie, tu as gagné un jeu NES, mais est-ce que tu as une NES?
Elle est morte, le petit voisin l'a fait tomber en fait, quand elle était sur la NES. Donc bon. Il faut que j'en achète une nouvelle maintenant.
Bah écoute, ça vaut le coup, hein. Écoute, voilà, je te remets ce Mr. Splash avec un certificat d'authenticité à l'intérieur de l'enveloppe. Bravo, félicitations pour tes dextérités.
Alors attends, regarde-moi à tous de la partir comme ça sur le Twitter et le Facebook de mon blog. Bravo. Et comme tu pourras le regarder, c'est le 15e, le 15e de 50 exemplaires au monde. C'est assez rare. Bravo Sophie. Merci infiniment à tous d'avoir répondu présent à l'invitation de la FNAC et de Gameblog.fr. Je crois qu'on peut remercier Alexis et Florent qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous. Merci Julo, merci Tiger.
Merci Julien.
Merci à vous tous. On se retrouve dès la semaine prochaine, puisque actuellement, peut-être que vous nous voyez, eh bien, nous sommes à l'E3, à Los Angeles, et la semaine prochaine, les podcasts de Gameblog reprennent tous les mercredis, vous le savez, avec le 189e podcast qui sera dédié à toute l'actualité de l'E3. On saura enfin, on le sait déjà, quel est le nom du projet café, les nouveaux gros jeux de la PS3, de la Xbox 360, et donc du côté de chez Nintendo. Merci à tous, à très bientôt sur Gameblog.fr. Portez-vous bien et surtout, je viens. Ciao.
Merci à tous.
Oh, vous avez été super. Merci. Ça allait, on a répondu correctement, tout va bien.
C'est quand qu'on enregistre en fait?
Là c'était l'entraînement, là c'était juste l'échauffement. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont là, vous pouvez suivre sur Twitter, Alexis Blanchet, je crois que c'est Alexis Blanchet, donc voilà. c'est facile. Florent Gorge, c'est Florent Gorge. .fr, non, FR tout court. Florent Gorge FR. Gameblog, c'est Gameblog FR. Moi, c'est Julie Achillez. Voilà, comme ça, il y a plein. Non, c'est pas Julie. C'est pas Chris, monsieur. Donc voilà, vous pouvez suivre Gameblog et tout le monde sur Twitter, sur Facebook. Comme ça, vous serez au courant à chaque fois. Puisque il est possible qu'on fasse ce genre d'événement si ça vous a plu. Ça vous a plu?
Ouais.
Ouais, Tiger. Et on reste un petit peu si vous avez des questions ou quoi que ce soit.
Yes.